Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau pour Lectures en liberté et nous continuons la lecture du roman de Siménon, Le chien jaune. Allô ? Le phare de Brest. Commissaire Maigret. Le directeur, s'il vous plaît. Allô ? C'est lui. Bon. Voulez-vous me dire à quelle heure votre canard est sorti de Presse ce matin ? 9h30 ? Et qui a rédigé l'article au sujet des drames de Concarneau ? Ah non, pas d'histoire, hein, vous dites ? Vous avez reçu cet article sous enveloppe. Pas de signature. Et vous publiez ainsi n'importe quelle information anonyme qui vous parvient. Je vous salue. Il voulut sortir par la porte qui s'ouvrait directement sur le quai et la trouva fermée. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Demanda-t-il à Emma en la regardant dans les yeux. C'est le docteur. Il fixa Michou, qui avait une tête plus oblique que jamais, haussa les épaules, sortit par l'autre porte, celle de l'hôtel. La plupart des magasins avaient leurs volets clos, les gens, endimanchés, marchaient vite. Au-delà du bassin où des bateaux tiraient sur leur ancre, Maigret trouva l'entrée de la rivière, tout au bout de la ville, là où les maisons se raréfient, pour faire place à des chantiers navals. On voyait des bateaux inachevés sur le quai, de vieilles barques pourrissaient dans la vase. À l'endroit où un pont de pierre enjambe la rivière qui vient se jeter dans le port, il y avait un groupe de curieux entourant une petite auto. Il fallait faire un détour pour y arriver car les quais étaient barrés par des travaux. Maigret se rendit compte au regard qu'on lui lança que tout le monde le connaissait déjà. Et sur les seuils des boutiques fermées, il vit des gens inquiets qui y parlaient bas. Il atteignit enfin la voiture abandonnée au bord de la route, ouvrit la portière d'un geste brusque, fit choir des éclats de verre et n'eut pas besoin de chercher pour relever des taches brunes sur le drap du siège. Autour de lui se pressaient surtout des gamins et des jeunes gens pharaux. La maison de Monsieur Servière. Ils furent 10 à l'y conduire. C'était à 300 mètres, un peu à l'écart, une maison bourgeoise entourée d'un jardin. L'escorte s'arrêta à la grille tandis que Maigret sonnait, était introduit par une petite bonne au visage bouleversé. « Madame Servière est ici ?» Elle ouvrait déjà la porte de la salle à manger. « Dites, commissaire, croyez-vous qu'on l'ait tuée ? Je suis folle, je... » Une brave femme d'une quarantaine d'années, aux allures de bonne ménagère, que confirmait la propreté de son intérieur. « Vous n'avez pas revu votre mari depuis... »« Ben, il est venu dîner hier au soir. » J'ai remarqué qu'il était préoccupé, mais il n'a rien voulu me dire. Il avait laissé la voiture devant la porte, ce qui signifiait qu'il sortait le soir. Je savais que c'était pour faire sa partie de cartes au café, l'amiral. Je lui ai demandé s'il rentrerait tard. À 10h, je me suis couché. Longtemps, je suis resté éveillé. J'ai entendu sonner 11h, puis 11h30. Mais il lui arrivait souvent de rentrer très tard. J'ai dû m'endormir. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai été étonné de ne pas le sentir à côté de moi. Alors j'ai pensé que quelqu'un l'avait entraîné à Brest. Bon, ici, ce n'est pas gai. Alors parfois... Mais je ne pouvais pas me rendormir. Dès 5 heures du matin, j'étais debout à guetter derrière la fenêtre. Il n'aime pas que j'aie l'air de l'attendre, et encore moins que je m'informe de lui. À 9 heures, j'ai couru chez Monsieur Le Pommeray. C'est en revenant par un autre chemin que j'ai vu des gens autour de l'auto dites « Pourquoi l'aurait-on tué ? C'est le meilleur homme de la terre, je suis sûr qu'il n'a pas d'ennemis. » Un groupe stationnait devant la grille. « Il paraît qu'il y a des taches de sang. J'ai vu des gens lire un journal, mais personne n'a voulu me le montrer. » « Votre mari avait beaucoup d'argent sur lui ?»«
Je ne crois pas, comme toujours, 300 ou 400 francs. »
Maigret promit de la tenir au courant, se donna même la peine de la rassurer par des phrases vagues. Une odeur de gigot arrivait de la cuisine. La bonne, en tablier blanc, le reconduisit jusqu'à la porte. Et il s'achemina vers le centre-ville. C'était idiot. Il n'avait jamais vu pareille chose. Cela rappelait les orages tels qu'on les représente parfois au cinéma. On montre une rue riante, un ciel serein. Puis un nuage glisse en surimpression, cache le soleil. Un vent violent balaye la rue, éclairage glauque, volets qui claquent, tourbillons de poussière, larges gouttes d'eau. Et voilà la rue sous une pluie battante, sous un ciel dramatique. Concarneau changeait à vue d'œil. L'article du Phare de Brest n'avait été qu'un point de départ. Depuis longtemps, les commentaires verbaux dépassaient grandement la version écrite. Et c'était dimanche, par surcroît. Les habitants n'avaient rien à faire. On les voyait choisir comme but de promenade l'auto de Jean Servière, près de laquelle il fallut poster 2 agents. Les badauds restaient là 1 heure à écouter les explications données par les mieux renseignés. Quand Maigret rentra à l'hôtel de l'amiral, le patron à toque blanche, en proie à une nervosité inaccoutumée, l'accrocha par la manche. « Il faut que je vous parle, commissaire, cela devient intenable !»« Vous allez avant tout me servir à déjeuner. » Mais Maigret alla s'asseoir dans un coin rageur et commanda « 1/2 !»« Vous n'avez pas vu mon inspecteur ?» Il est sorti ? Je crois qu'il a été appelé chez Monsieur le maire. On vient encore de téléphoner de Paris. Un journal a retenu 2 chambres pour un reporter et un photographe. Le docteur, il est là-haut. Il a recommandé de ne laisser monter personne. Et Monsieur le Pommeray ?
Il vient de partir.
Le chien jaune n'était plus là. Des jeunes gens, une fleur à la boutonnière, les cheveux raides de cosmétiques étaient attablés, mais ne buvaient pas les limonades qu'ils avaient commandées. Ils étaient venus pour voir. Ils étaient tout fiers d'avoir eu ce courage. « Viens ici, Emma. » Il y avait une sorte de sympathie innée entre la fille de salle et le commissaire. Elle vint vers lui avec abandon, se laissa entraîner dans un coin. Tu es sûr que le docteur n'est pas sorti cette nuit ?
Je vous jure que je n'ai pas couché dans sa chambre.
Il a pu sortir.
Je ne le crois pas. Il a peur.
Ce matin, c'est lui qui m'a fait fermer la porte qui donne sur le quai.
Comment ce chien jaune te connaît-il ?
Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il vient, il repart.
Je me demande même qui lui donne à manger.
Il y a longtemps qu'il est reparti ?
Je n'ai pas fait attention.
L'inspecteur Leroy entrait nerveux.
J'ai tout envoyé au laboratoire. Les verres, les boîtes de conserve, le couteau. J'ai même fait un moulage de plâtre des traces de l'homme et de celles du chien.
Cela a été difficile car le plâtre ici est mauvais. Vous avez une idée ?
Pour toute réponse, Maigret tira un carnet de sa poche. Et l'inspecteur lut, de plus en plus dérouté. Ernest Michoud, dit le docteur. Fils d'un petit industriel de Seine-et-Oise qui a été député pendant une législature et qui ensuite a fait faillite. Le père est mort, la mère est intrigante, a essayé avec son fils d'exploiter un lotissement à Juin-les-Pins, échec complet, a recommencé à Concarneau. Monté société anonyme grâce au nom du défunt mari, n'a pas fait d'apport de capitaux, essaie d'obtenir actuellement que les frais de viabilité du lotissement soient payés par la commune et le département. Ernest Michoud a été marié puis divorcé. Son ancienne femme est devenue l'épouse d'un notaire de Lille. Type de dégénéré, échéance difficile. L'inspecteur regarda son chef avec l'air de dire « Et après ?» Maigret lui montra les lignes suivantes.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et donc après ce petit moment musical, nous revenons au Chien jaune de Georges Siménon. L'inspecteur Leroy continua de lire sur le carnet. Yves Le Pommeret. Famille Le Pommeret.
Son frère Arthur dirige la plus grosse fabrique de boîtes à conserve de Concarneau, petite noblesse. Yves Le Pommeret est le beau garçon de la famille. N'a jamais travaillé, a mangé il y a longtemps le plus gros de son héritage à Paris. Est venu s'installer à Concarneau quand il n'a plus eu que 20 000 francs de rente. Parvient à faire figure de notable quand même en cirant lui-même ses chaussures. Nombreuses aventures avec de petites ouvrières. Quelques scandales ont dû être étouffés. Chasse dans tous les châteaux des environs. Portebeau est arrivé par relation à se faire nommer vice-consul du Danemark, brigue la Légion d'honneur, tape parfois son frère pour payer ses dettes. Jean Servière, pseudonyme de Jean Goyard, né dans le Morbihan, longtemps journaliste à Paris, secrétaire général de petits théâtres, etc. A fait un modeste héritage et s'est installé à Concarneau. A épousé une ancienne ouvreuse qui était sa maîtresse depuis 15 ans. Train de maison bourgeois, quelques frasques à Brest et Nantes, vit plutôt de petites rentes que du journalisme dont il est très fier, palmes académiques.
« Je ne comprends pas, » balbutia l'inspecteur.
« Mais parbleu, donnez-moi vos notes. »«
Mais qui vous a dit que... Donnez !»
Le carnet du commissaire était un petit carnet à 10 sous en papier, quadrillé avec couverture de toile cirée. Celui de l'inspecteur, le roi, était un agenda à page mobile monté sur acier. L'air paterne, Maigret lut. Premièrement, affaire Mostaghen. La balle qui a atteint le négociant en vain était certainement destinée à un autre. Comme on ne pouvait prévoir que quelqu'un s'arrêterait sur le seuil, on devait avoir donné à cet endroit un rendez-vous à la vraie victime qui n'est pas venue ou qui est venue trop tard. À moins que le but soit de terroriser la population. Le meurtrier connaît à merveille Concarneau. Et entre parenthèses, omis analyser cendre de cigarette trouvée dans le corridor. Deuxièmement, affaire du Pernod empoisonné. En hiver, le café de l'amiral est désert presque toute la journée. Un homme au courant de ce détail a pu entrer et verser le poison dans les bouteilles, dans 2 bouteilles. Donc, on visait spécialement les consommateurs de Pernod et de Calvados. Entre parenthèses. À noter pourtant que le docteur a remarqué à temps et sans peine les grains de poudre blanche sur le liquide. Troisièmement, affaire du chien jaune. Il connaît le café de l'amiral. Il a 1 mètre. Mais qui ? Paraît âgé de 5 ans au moins. Quatrièmement, affaire Servière. Découvrir par expertise de l'écriture qui a envoyé article au phare de Brest. Maigret sourit, rendit l'agenda à son compagnon et laissa tomber « Très bien, petit ». Puis il ajouta avec un regard maussade aux silhouettes de curieux qu'on apercevait sans cesse à travers les vitraux verts « Allons manger ». Emma devait leur annoncer un peu plus tard, alors qu'ils étaient seuls dans la salle à manger avec le voyageur de commerce arrivé le matin, que le docteur Michou, dont l'état avait empiré, demandait qu'on le servît dans sa chambre un repas léger. L'après-midi, le café de l'amiral avec ses petits carreaux glauques fut comme une cage du jardin des plantes, devant laquelle les curieux endimanchés défilent. Et on les voyait se diriger ensuite vers le fond du port où la voiture de Servière était une seconde attraction gardée par 2 policiers. Le maire téléphona 3 fois de sa somptueuse villa des Sables Blancs.
« Vous avez procédé à une arrestation ?»
C'est à peine si Maigret se donnait la peine de répondre. La jeunesse de 18 à 25 ans envahit le café. Des groupes bruyants qui prenaient possession d'une table commandaient des consommations qu'on ne buvait pas. Il n'était pas depuis 5 minutes dans le café que les répliques s'espaçaient, que les rires mouraient, que la gêne faisait place au bluff. Et ils s'en allaient les uns après les autres.
La différence fut plus sensible quand on dut allumer les lampes. Il était 4 heures. D'habitude, la foule continuait à circuler. Ce soir-là, ce fut le désert et un silence de mort. On eût dit que tous les promeneurs s'étaient donné le mot. En moins d'un quart d'heure, les rues se vidèrent, et quand des pas résonnaient, c'étaient les pas précipités d'un passant anxieux de se mettre à l'abri chez lui. Emma était accoudée à la caisse. Le patron allait de sa cuisine au café où Maigret s'obstinait à ne pas écouter ses doléances. Ernest Michou descendit vers 4h30, toujours en pantoufles. Sa barbe avait poussé. Son foulard de soie crème était maculé de sueur. « Vous êtes là, commissaire ?» Cela parut le rassurer. « Et votre inspecteur ?»
Je l'ai envoyé faire un tour en ville.
Le chien?
On ne l'a pas revu depuis ce matin.
Le plancher était gris, le marbre des tables d'un vieux blanc cru veiné de bleu. À travers les vitraux, on devinait l'horloge lumineuse de la vieille ville qui marquait 5h10.
On ne sait toujours pas qui a écrit cet article.
Le journal était sur la table. Et on finissait par ne plus voir que 4 mots. À qui le tour ?
La sonnerie du téléphone vibra. Emma répondit : « Non, non, rien, je ne sais rien. »
« Qui est-ce ? » s'informa Maigret.
« Encore un journal de Paris. Il paraît que les rédacteurs arrivent en voiture. »
Elle n'avait pas achevé sa phrase que la sonnerie résonnait à nouveau.
« C'est pour vous, commissaire. »
Le docteur, tout pâle, suivit Maigret des yeux. « Allô ? Qui est à l'appareil ?»«
Le roi. Je suis dans la vieille ville, près du passage d'eau. On a tiré un coup de feu. Un cordonnier qui a aperçu de sa fenêtre le chien jaune. »«
Mort ?
Blessé, les reins cassés. » C'est à peine si l'animal peut se traîner. Les gens n'osent pas en approcher. Je vous téléphone d'un café, la bête est au milieu de la rue. Je la vois à travers la vitre, elle hurle. Mais qu'est-ce que je dois faire ?
Et la voix que l'inspecteur eût voulu calme était anxieuse, comme si ce chien jaune blessé eût été un être surnaturel.
Il y a des gens à toutes les fenêtres. Dites, commissaire, est-ce qu'il faut l'achever ?
Le docteur, le teint plombé, était debout derrière Maigret, questionnant timidement
« Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a dit ?»
Et le commissaire voyait Emma accoudée au comptoir, le regard vague. Maigret traversa le pont-levis, franchit la ligne des remparts, s'engagea dans une rue irrégulière et mal éclairée. Ce que les Concarnois appellent la ville close, c'est-à-dire le vieux quartier encore entouré de ses murailles, est une des parties les plus populeuses de la cité. Et pourtant, alors que le commissaire avançait, il pénétrait dans une zone de silence de plus en plus équivoque. Le silence d'une foule qui hypnotise un spectacle et qui frémit, qui a peur, ou qui s'impatiente. Quelques voix isolées d'adolescents décidés à crâner. Un tournant encore et le commissaire découvrit la scène, la ruelle étroite, avec des gens à toutes les fenêtres, des chambres éclairées au pétrole, des lits entrevus, un groupe barrant le passage, et au-delà de ce groupe un grand vide, d'où montait un râle. Maigret écarta les spectateurs, des jeunes gens pour la plupart, surpris de son arrivée. Deux d'entre eux étaient encore occupés à jeter des pierres dans la direction du chien. Leurs compagnons voulurent arrêter leur geste. On entendit, ou plutôt on devina, « Attention !» Et un des lanceurs de pierres rougit jusqu'aux oreilles, tandis que Maigret le poussait vers la gauche, s'avançait vers l'animal blessé. Le silence déjà était d'une autre qualité.
Il était évident que quelques instants plus tôt, une ivresse malsaine animait les spectateurs, hormis une vieille qui criait de sa fenêtre « C'est honteux! Vous devriez leur dresser procès-verbal, commissaire! Ils sont tous à s'acharner sur cette pauvre bête, et je sais bien pourquoi, moi, parce qu'ils en ont peur !»
Le cordonnier qui avait tiré rentra gêné dans sa boutique. Maigret se baissa pour caresser la tête du chien, qui lui lança un regard étonné, pas encore reconnaissant. L'inspecteur Leroy sortait du café d'où il avait téléphoné. Des gens s'éloignaient à regret. « On amène une charrette à bras !» Les fenêtres se fermaient les unes après les autres, mais on devinait des ombres curieuses derrière les rideaux. Le chien était sale, ses poils drus maculés de sang. Il avait le ventre boueux, la truffe sèche et brûlante. Maintenant qu'on s'occupait de lui, il reprenait confiance, n'essayait plus de se traîner sur le sol où 20 gros cailloux l'encadraient. « Où faut-il le conduire, commissaire ?»« À l'hôtel. »« Doucement. »« Mettez de la paille dans le fond de la charrette. »
Nous avons terminé pour ce soir et nous reviendrons donc demain au roman de Georges Siménon, Le Chien Jaune. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet Bretagne5.fr.